I got glue and chore pour I to the pipe of it.
L'écho du parquet, l'émission qui met le feu au plancher.
À la vacante, j'ai dit de ne pas m'engarrer, pas m'engarrer.
Votre rendez-vous radiophonique des musiques et danses traditionnelles.
La petite souche a une belle plume de haut.
Pas m'engarrer, pas m'engarrer.
Mais si l'amour prend la racine dans mon jardin, j'en planterai. Dans mon jardin, j'en planterai, mais aux quatre coins. J'en ferai pas au long nous deux qui en auront besoin.
Elle est pas mal.
Et bonjour, c'est l'écho du parquet, bienvenue à toutes et à tous.
Bonjour.
Vous nous écoutez peut-être sur fréquence 7 92 FM ou sur Radio Méga 99.2 ou encore sur Radio Saint-Ferréol au 94.2.
Et vous écoutez peut-être aussi cette 35e émission sur notre audioblog Arte Radio L'écho du parquet. Une 35e émission qui va être consacrée à quoi donc ? Je vous le demande et je le demande plus précisément à Noémie qui a fait le sujet et qui nous envoie une petite présentation depuis le Berry. Noémie, de quoi on va parler ?
Alors aujourd'hui, on vous a préparé une émission spéciale percussion dans les musiques trad. Et donc à cette occasion, on va écouter des groupes avec des percussions, bien évidemment, et aussi une interview de Florian Hujbar qui est percussionniste dans de nombreux groupes de bal et qui va nous raconter un peu son parcours musical et plein de choses sur les percussions.
Sa no quite su mantel
Alors c'était le morceau Janetta pour se mettre dans le bain percussif avec Cocagne. On va faire très très court sur ce groupe, c'est un duo à l'envergure énorme. Et puis en fait on voulait simplement vous parler des percussions ici puisque vous avez compris et on l'a déjà dit, c'est le thème de l'émission du jour. Alors dans Cocagne, percussion corporelle bien sûr, pieds, mains, et puis vous l'avez entendu très fort dans ce morceau, un instrument emblématique des musiques occitanes, le tambourin à cordes, dont elles jouent toutes les deux. Alors selon les régions, il a pas mal de noms différents. On l'appelle Tuntun au Pays Basque, on l'appelle Tambourine, Tambourine, Tonton, Tom-Tom ou Tembo en Gascogne, Salterio ou Chicoten en Aragon, et puis il y a un tas d'autres noms que je vous passe. si vous n'avez jamais
vu... On l'appelle Poum Poum en Auvergne.
Voilà. Et tac-tac en Bretagne. si vous ne l'avez jamais vu, c'est une caisse de résonance oblongue en bois, à peu près 80 cm de long, et puis elle est assez étroite, sur laquelle sont fixées entre 2 et 9 cordes, dont la moitié sont accordées sur la tonique et l'autre moitié sur la quinte. Donc il faut plusieurs tounes pour jouer dans plusieurs tonalités. Il se tient à plat ou alors contre l'épaule et avec une maillotche, c'est-à-dire un bout de bois, quoi, plus ou moins lourde, que tient le ou la musicienne, on tape les cordes de ce tambourin toutes ensemble simultanément. Voilà. On va pas rentrer trop dans les détails, mais ce qui fait aussi son son assez particulier qui grésille un peu, ce sont des petits cavaliers métalliques qui sont fixés sur le chevalet de la caisse et réglés pour frôler les cordes quand elles sont frappées. Donc ça fait un son un petit peu métallisé.
Un cavalier, ça a rien à voir avec le cheval. Là, c'est un truc de bricolage un peu technique, c'est ça ?
Ouais, alors j'ai pas exactement bien compris ce que c'était, donc j'avais pas,
okay, t'avais pas anticipé
très envie qu'on me pose cette question.
En gros, je suis contente d'avoir posé.
C'est une petite pièce métallique, c'est ça que j'ai compris, une sorte de petit support métallique quoi, qui fait en sorte que les cordes vont toucher un truc métallique et donc ça fait un petit son métallique.
D'accord.
Voilà, c'est bon, ne m'en demande pas plus.
Non, mais c'est bien, moi ça me suffit.
Voilà, sinon c'est un instrument qui est souvent joué en même temps que la flûte, alors c'est pas le cas dans Cocagne, mais plein d'autres groupes font ça, par le même musicien ou musicienne, bref, un dans chaque main, enfin fastoche quoi.
Ouais, tranquille.
Et puis on continue sur les percussions avec une interview d'un percussionniste que vous allez découvrir tout de suite.
Eh ben, donc voilà, moi c'est Florian Huichbard, je suis né dans le nord de la France, à Grande-Synthe. Donc je suis musicien, percussionniste, batteur, plutôt dans les musiques traditionnelles françaises. Et actuellement, je fais partie donc, des groupes de Bâle, Zlabia, La Machine, Hormuz, Petit Piment. Et j'ai quelques autres projets qui tournent autour plutôt des musiques traditionnelles ou musique baroque. Un projet Ad Fontes avec un guitariste, Mathias Collet. Et puis un quintet de musique italienne autour des collectages d'Alain Lomax, mais donc ça reste plutôt autour des musiques traditionnelles toujours. Alors, mon parcours, j'ai commencé donc, dans le nord de la France, il y a des grosses traditions d'harmonie. Donc beaucoup autour des cuivres. Donc j'ai commencé par la trompette quand j'étais petit, j'en ai fait pendant presque 7 ans. Et puis j'étais quand même toujours attiré par les percussions, c'était quelque chose qui me... ça m'intriguait beaucoup, et donc je me suis... on m'a offert des petits instruments de percus, des bongos, des djembés, des choses comme ça. Et donc même si la trompette me plaisait énormément, au fur et à mesure j'ai vraiment dévié vers les percus et puis un petit peu la batterie. Et en fait, tout ça, c'est venu parce que j'ai rencontré des musiciens et des musiciennes qui faisaient pas de musique trad à cette époque-là. C'était plutôt des... Pour tout te dire et tout avouer, ça a commencé même dans un petit groupe de rock chrétien. Donc ça, c'était après le catéchisme, etc. On était dans un petit village et des petites villes aux alentours. Donc évidemment, tout tournait un petit peu autour des mêmes amis. Et donc ceux qu'on croisait aussi bien au foot, on les croisait au catéchisme et tout ça. Donc c'est avec ces gens-là que j'ai commencé vraiment, et même aussi avec mon frère. Je vais le mettre dans la confidence. Et en fait, c'était hyper sympa. Et puis donc, C'était pas trop de la musique traditionnelle, mais c'était vachement chouette. Et donc, c'est là où j'ai vraiment commencé à jouer de la percu. Et puis, ça m'a énormément plu, donc j'ai continué. Et c'est là qu'est arrivé les musiques traditionnelles. En fait, on avait toujours un peu baigné là-dedans, notamment dans la danse, parce que nos parents dansaient énormément et dansent encore énormément. Ils font partie, là, maintenant, encore d'associations, aussi bien là, sur la danse bretonne que sur les danses flamandes. Et donc c'est toujours eux et beaucoup aussi notre père qui est un grand mélomane et qui nous a toujours beaucoup fait écouter de musique trad. Pas que, hein, mais énormément. Et nous, vraiment, on est, j'ai un grand frère et une grande sœur. On a vraiment, on a pris le virus, entre guillemets, ça nous a vraiment plu. Et donc c'est vraiment de par nos parents, quoi. Et donc assez rapidement, comme on faisait, on était tous les trois à l'école de musique. On a commencé à jouer des morceaux trad, à reprendre sur les vinyles ce qu'on écoutait ou les CD naïvement. Et puis un jour, on s'est dit, en fait, il faudrait qu'on fasse un groupe de bal. Et donc, c'est quand mon frère, plus tard, a été à Lille, là, il a rejoint un collectif de musiciens. Et assez vite, j'ai été invité à taper, à pas faire de la trompette, mais à faire de la percu, du coup. Tu trouves un peu des sons du futur, bon, la batterie aussi, hein, mais... Bon, en vrai, c'est que j'ai un peu beaucoup étouffé les trucs de batterie. Et bah... Mais quand même, je préfère cette profondeur avec la peau naturelle. Lille, c'est vraiment le premier décollage, en tout cas au niveau de la musique traditionnelle. Mmh. Parce qu'avant ça, comme je te disais, on vient vraiment d'un petit village où c'était plutôt le foot, le catéchisme, etc. Et avec la musique, on passait toujours un petit peu pour les intellos de service. Donc c'est vraiment l'arrivée à Lille, et puis encore plus après quand j'ai fait mes études, où là vraiment j'ai intégré une association qui s'appelait Chaladichal. C'était autour des musiques bretonnes principalement. Et en fait, ils donnaient des cours de guitare, de bombarde, d'accordéon. Et c'est notamment là où j'ai rencontré les premiers musiciens un peu prépondérants qui nous ont vraiment bien aiguillés. Donc, c'est un violoniste qui s'appelle Rémi Lemoff, ou Aurélien Tange à la guitare, Gabriel Lenoir de Chilela. Et donc, c'est vraiment ces gens-là où on s'est vraiment rapprochés. Et on s'est dit, ouais, allez, on y va à fond. Donc, on a pris un peu des... C'était pas vraiment des cours, c'était des ateliers d'échange. Et c'est quand vraiment là j'ai démarré mes études à Lille où en fait rapidement j'ai été au conservatoire en percussion afro-cubaine dans le cursus afro-cubain avec Frédéric Savinien. Et là vraiment ça a été super parce que j'ai une vraie méthodologie en fait pour apprendre. Donc c'était toujours dans des musiques traditionnelles, cubaines cette fois-ci, mais... Où là vraiment c'était chouette parce que j'étais très motivé en fait. Je savais déjà que je voulais essayer de faire de la musique, en tout cas que ce serait, si c'était pas mon métier, ce serait une grosse passion et ça prendrait beaucoup de temps. Et effectivement, je me suis assez vite rendu compte en rejoignant donc d'autres musiciens et musiciennes qui m'ont dit franchement, prends des cours, tu verras, ça peut aider. Effectivement, ça m'a beaucoup structuré, ça m'a appris à organiser. Ma façon d'apprendre en fait. Et ça, ouais, je pense que ça m'a fait gagner beaucoup de temps des fois. Les styles, même si on raisonne de la musique à danser, les univers sont différents. Mais tu vois, dans Petit Piment, effectivement, j'ai tout mon bagage afro-cubain qui va me servir et que je pourrais mettre à profit, donc comme je te disais, bien sûr, en immersion dans la musique à danser française, puisque en vrai, la musique afro-cubaine, c'est aussi de la musique à danser. Mais, et puis pour Hormuz, là, c'est vraiment distinct par la podorythmie, en fait. Forcément, on fait des musiques un peu plus folk, country et québécoise. Donc là, il y a tout ce bagage-là, un peu de la tape des pieds ou un peu irlandais, tu vois. Donc, Du coup, ça va, c'est assez distinct, quoi. Je risque pas trop de m'en mêler les pinceaux, ça va. Je dirais que ma couleur de base, en tout cas, si je prends comme exemple Petit Piment, où du coup c'est un des derniers groupes que j'ai rejoint, en fait, on m'a principalement demandé pour venir, voilà, un peu accentuer ce son caribéen. Et donc, évidemment, ça passait par tout ce qui est la joue de conga, de clave, de cloche, etc. Et puis, après, même si on part un petit peu plus loin, le cayambe réunionnais, tout ça. Mais ça reste dans la partie, je dirais, un peu africaine de ce qu'on me demandait de venir ajouter.
On parlait de Petit Piment, donc il y a aussi Léo Danet à la batterie. Mmh. Est-ce que, du coup, l'idée, c'était... déjà, c'est assez surprenant, on ne voit pas beaucoup des groupes de bal où il y a deux percussionnistes, Léo Danet à la batterie et toi, donc multi-percussions. Est-ce que c'était une envie première dans la création du groupe d'aller faire un truc qui envoie de la patate niveau percu, ou est-ce que c'était juste au fur et à mesure des rencontres?
Non, c'était vraiment l'idée première, ouais. En fait, c'est Lucas Thébault qui nous a réunis, et dans sa tête, il disait « Allez, j'ai vraiment envie d'un truc, quelque chose de très rythmique, où c'est très marqué. » Et effectivement, c'est hyper chouette, parce que du coup, ouais, on a peu l'habitude de le voir. C'est vrai qu'on le voit partout, pas partout, mais en tout cas très souvent dans les musiques modernes. Ça, c'est clair, dans la pop, il y a énormément ce mix-là. Et l'idée, c'était se dire, tiens, vas-y, on plonge, on essaye. Alors ça s'est fait, évidemment, il y a eu des choses avant nous, mais pas beaucoup, quoi, dans le style trad. La musique à danser, c'est assez neuf d'avoir, en tout cas, justement, des choses, des instruments un peu jeunes, mélangés, en tout cas, à la batterie, surtout. Les percus, c'est un peu plus, en tout cas, les congas un peu plus anciens, mais quand même, c'est pas... Ça date de l'esclavage, c'est pas non plus des choses... Des cornemuses qui sont là depuis bien plus longtemps, etc. Mais c'était un peu le pari, et on est encore en train de chercher.
Ouais, c'est difficile de jouer à deux percussionnistes comme ça.
C'est pas évident, ouais. C'est pas évident. Et puis tu vois, parce que comme je te disais, on a quand même des codes modernes, tu vois. Lui, il a fait beaucoup de jazz, moi j'ai fait pas mal de salsa, où du coup, c'est là forcément, on est. Des fois, il y a eu des batteurs ou des batteuses aussi, en plus des percus. Donc, on est souvent 3 à 4 à assurer la rythmique, entre guillemets. Et puis après, aussi bien de l'afrobeat, des choses comme ça. J'avais un groupe d'afrobeat sur Marseille, où du coup, là, il y avait batterie, percus aussi. On était deux percussionnistes. Donc, ces codes-là, je les ai dans ces musiques-là. Mais après, c'est vrai que de l'adapter au trad, il faut... On a un bagage, mais c'est souvent pas suffisant. Parce qu'on ne pourra pas non plus... mettre à 100% les choses pop ou rock, il y a quand même toujours des adaptations, et c'est là où il faut bosser un peu entre nous, chercher et se dire, tiens, si tu fais ça, j'essaye comme ça, ok, ça marche, tiens, ça marche pas. Souvent, Lucas, il danse aussi pour voir si ça va être cool, si ça accompagnera bien. Okay. Voilà. Celui-là, c'est un petit cabri, il a été ramené de la Réunion directement. Alors, juste techniquement parlant, basiquement, tu vois, par exemple, dans le Petit Piment, j'ai pas la calebasse. Donc, la calebasse, c'est la courge africaine que j'utilise pour faire la grosse caisse. Et comme, du coup, dans Petit Piment, il y a un batteur, ça, d'office, je l'enlève, tu vois. Je me suis dit, ok, je pourrais la jouer à la main, mais en tout cas, j'ai jamais trouvé la nécessité de le faire et la pertinence de le faire pour l'instant. Et donc, parce que de facto, il y a la grosse caisse qui fait le boulot. Et donc, c'est vraiment là, je me suis dit, ok, il y a Léo, il va tenir Basiquement, on pourrait dire que lui il tient un peu plus la baraque et moi je viens assurer avec des. Enfin, ajouter des couleurs, etc. Oui, tu vois.
Demander, en fait.
Voilà. Oui. Ouais. Bon, basiquement, hein, parce que c'est pas tout à fait ce qui se passe. Lui aussi, il rajoute plein de choses et moi, des fois, c'est moi qui tiens la rythmique à fond la caisse et lui qui part un peu plus. Mais donc, le choix, il se fait de l'instrumentarium. Moi, il se fait. En fait, j'ai un peu d'un kit prédéfini, même si on m'invite des fois sur des créations, etc., où forcément il y aura les congas qui tourneront parce que c'est les instruments que je maîtrise le mieux pour moi. Mais après, autour de ça, je bricole. J'ai la chance d'avoir eu justement plein de rencontres avec des Brésiliens, des Brésiliennes, des Irlandais, des Irlandaises, enfin, vraiment plein de gens où j'ai pu vraiment, même si je joue pas tout très bien, et c'est pas très grave en tout cas, j'ai certaines techniques qui me permettent de faire un peu le pirate et de pouvoir utiliser plusieurs éléments qui ajoutent plein de couleurs, plein de diversité, donc que ça passe du berimbau au daf iranien, ou tout simplement des fois une caisse claire jouée comme un batteur de rock, ou voilà, enfin, plein de choses quoi, qui permettent voilà, des cloches, des sonnailles.
Ouais, ça c'est celle-là, cette paire-là, donc c'est mes premières congas que j'ai achetées il y a, je sais pas, presque 20 ans maintenant. Et donc là c'est, je les joue principalement ouais, donc dans le groupe La Machine et puis avec Petit Piment.
Et tous ces instruments qui viennent un peu d'ailleurs, t'es allé voir à chaque fois des musiciens qui étaient, je sais pas, originaires de là d'où les instruments étaient pour apprendre. Comment t'as fait ? T'as beaucoup voyagé, je suppose. Oui.
Eh ben, carrément. Non, pas du tout. Si, j'ai un peu voyagé, mais en fait, il y a une super invention maintenant qui s'appelle YouTube. Et, Non, je plaisante, j'exagère. En vrai, ça fait un peu partie du game. Évidemment, l'ouverture de tous ces réseaux sociaux, ben, c'est vrai que voilà, ça remplacera jamais quelqu'un que tu vois, avec qui tu es en tête à tête et avec qui tu pourras causer des heures et des heures. C'est sûr, ça remplacera jamais les personnes physiques, mais des fois, ça te permet justement de te dire « Ah tiens, ça me plaît, je vais voir un peu de quoi il s'agit. Ok, c'est super, j'ai envie de me former. » Et j'y vais à fond les ballons. Mais non, c'est vraiment la plupart du temps, c'est vraiment des rencontres. Soit sorti d'une scène où j'ai envie de jouer tel instrument, j'en cause autour de moi et on me dit va voir cette personne, un tel ou un tel, il saura t'aiguiller. Et ouais, hormis donc les cours que j'ai suivis en conservatoire, et puis là j'ai fait une bourse de compagnonnage aussi, tu vois, donc c'est. La FMDT, voilà, c'est ça. Donc j'ai été voir un percussionniste multi-instrumentiste. C'est génial, c'était vraiment génial. On a causé pendant des journées entières de percussion. Il m'a montré plein de choses.
Lui, il venait de quelle esthétique musicale et il jouait quoi ?
Alors, c'est Stéphane Edouard. J'ai été le voir parce que je suis un grand fan de Sixson. C'est un groupe de jazz, des vieux. Et lui aussi, il fait des sets hybrides. Il fait plein de styles. Donc il fait aussi bien du jazz, chansons françaises, beaucoup de musique indienne aussi. J'aimais bien son profil parce que justement un peu touche à tout, alors sans avoir une technique incroyable sur tous les instruments qu'il joue, parce que vraiment il joue plein de trucs quoi. Mais tu vois, ouais, justement par ces rencontres là, même si t'ira pas voir le spécialiste de tel instrument ou la spécialiste, voilà, t'arrives à avoir suffisamment de quoi manger pour bidouiller un peu et sortir des sons, des... Donc voilà, alors j'adorerais savoir jouer des trucs vraiment dans les clous, mais il suffirait pas de toute une vie, malheureusement. Oui, c'est ça qu'il faut, autant l'intérêt de la chose qui décourage. Et donc, ouais, voilà, le DAF, c'est iranien, celui-là... Thank you.
au jazz, au rock, et puis même aux musiques celtiques, aux musiques orientales, il y a aussi peu de percussions dans notre trad français et les bals folk en général. Enfin, en fait, c'est pas systématique d'avoir une percussionniste dans un groupe, contrairement à d'autres esthétiques. Est-ce qu'on sait pourquoi?
Ouais, tu vois, ça c'est bien, c'est les questions où... J'aimerais bien trouver des réponses un jour, où en vrai, je ne les ai pas non plus cherchées corps et âme, mais c'est vrai que, bah, tu vois, ces styles un peu là, que tu viens de décrire, c'est plutôt des styles nouveaux. Je dirais le jazz, le rock, la musique celtique. Au final, si on parle de musique celtique en tant que... Enfin, moi, quand je parle de musique celtique, ça sous-entend un peu... Des gens qui ont fait la génération un peu Alan Stivell, etc., donc qui ont commencé à moderniser, hein, toute proportion gardée, dans le sens de faire de la fusion avec les musiques modernes, de ces musiques traditionnelles. Bah, du coup, ça prenait son sens d'avoir des batteurs, des percussionnistes, ou des batteuses et des percussionnistes. Mais je dirais que c'est parce que, pour l'instant, hein, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai pu constater, c'est tout simplement que d'origine, dans pas mal de musique traditionnelle, si je compare un peu en Europe, tu vois, j'ai pas mal de références en Italie, en Espagne un peu moins, parce qu'il existe déjà assez rapidement des tambours sur cadre. Mais toute la musique anglo-saxonne aussi, au début, hormis le Baran, le Bodhran irlandais, c'est vrai qu'il y a très peu en Italie, donc on a le tambour sur cadre napolitain. Donc qui est certainement issu du Maghreb, en fait, avec les bendir, mais comme énormément de choses viennent de la culture africaine, alors ce qui est étrange, puisque en Afrique, il y a énormément de tambours, c'est même principalement l'instrument principal dans ces musiques traditionnelles, et c'est vrai qu'en Europe, ça s'est pas vraiment répandu, quoi. Là, tu vois, je fais pas mal de répertoires baroques avec un copain, donc on parle des années, là, 10 500, etc., et même avant ça, c'est compliqué de trouver des choses sur la percussion, parce qu'évidemment, j'ai essayé de me renseigner, de me dire, tiens, qu'est-ce qui se faisait à l'époque? Et en fait, la plupart des choses que je trouve, des pistes que je trouve, c'est sur des groupes assez modernes, en fait, ouais. En baroque.
Donc, par rapport aux traces, enfin, au collectage, en fait, on ne trouve pas beaucoup de collectage de percussion uniquement, ou alors même de musique accompagnée de percussion?
Non, c'est vraiment au Pays Basque qu'il y a des choses. Si par rapport à la musique de bal que moi je joue sur les choses les plus anciennes sur lesquelles je me suis inspiré, c'est vrai que j'en ai pas trouvé, quoi. Des fois il y a des violons, des accordéons un peu plus tard, mais non, en percussion, un peu hormis en Irlande, mais encore c'est pas si vieux que ça, donc
beaucoup de rythmie, ça serait peut-être la chose.
Ouais. Ouais.
Ça se trouve.
Ouais. Effectivement, la tape du pied.
La singularité, la percussion du trad, ça serait peut-être ça.
C'est vrai. En tout cas, si on compare par rapport effectivement au trad français, ou en tout cas les Français qui ont immigré au Québec avec les. Mais oui, voilà, tu vois, la podorythmie ou un peu le step dancing, c'était effectivement des choses qui existaient déjà. Et encore le littling, c'est la manière de chanter un peu, tu vois, bon, c'est assez percussif, mais ça reste quand même plutôt du chant que de la percu.
Et comme ça... Comme ça, ça me permet de le jouer...
Est-ce que c'est pas frustrant des fois, au niveau du jeu, en fait, de devoir respecter comme ça ce cadre de la danse?
Bah ouais, en fait, pour ma part, ça dépend des périodes. Des fois, c'est frustrant. Et des fois, je me dis, putain, mince, j'adorerais faire cette fusion avec tel rythme, et allez, tant pis, et en vrai... Parfois je le fais, surtout dans Zlabia, tu vois. Où... Bon, c'est un peu un délire, tu vois, c'est un parti pris, dans le sens où là on s'adresse plus Alors peut-être parfois c'est un peu égoïste et ça dénature la fonction même de la danse qu'on propose, mais dans ces cas-là on part plus sur la danse qu'on propose, c'est un peu une base, mais attention, on va la triturer et puis peut-être qu'il y aura d'autres choses qui en sortiront. Alors est-ce que c'est bien ou mal, je sais pas. Tant que c'est pour... si on est tous là pour faire la fête et pour se divertir, bon, ça peut être le prétexte. Et après, à contrario, des fois, ça dépend peut-être aussi des répertoires où j'ai la sensation, tu vois, où je me dis, j'ai pas envie de bouger. Je veux garder cette rythmique qui marche et je la trouve trop bien et je vais la tenir pendant 2 minutes non-stop, même si, voilà, il n'y a pas de fioriture, c'est pas... Mais parce que j'ai envie... que ce soit à l'aise, que ce soit là, et si ça permet justement aux gens qui dansent d'être bien ancrés et tout. Dans la machine, c'est plutôt ça, tu vois, où on a tendance à essayer de ne pas trop bouger de la tourne, et aussi bien, si je le fais vraiment, je vais mettre... Enfin, Greg, il est quand même pas mal avec nous, parce qu'avec le chien à la vielle, c'est la rythmique, quoi. Mais vraiment, des fois, basse, chien de vielle et percu, on essaye vraiment d'être tous les trois, et c'est ça aussi qui nous fait triper parfois, de tenir pendant 4 minutes tout. Et voilà, et d'autres fois ça peut être un peu frustrant, ouais, quand tu dis ah mais si seulement je pouvais ajouter cette rythmique, ouais mais non, mais là personne me suivra si je dis allez on passe pour un rond d'argenton, en fait non ça marchera pas, on peut pas faire de danse là-dessus, et, en tout cas de danse de bal, et tant pis, bon bah. Donc ouais, c'est compliqué à répondre, mais ouais, parce que c'est un parti pris, quoi. Soit, des fois, tu te dis, bon, allez, on s'en fout, et puis on trouvera bien quelque chose à faire danser. Mais voilà, faut se dire que dans ces cas-là, tu fais le choix de prévenir le danseur à dire, bah, on va essayer de trouver une nouvelle danse, et, mais pourquoi pas, après, en fait, je veux dire, ça pourrait... Pourquoi pas, hein. J'ai adoré jouer pour de la musique à danser. Et puis à un moment aussi, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais je vais faire une scission qui est là un peu exagérée, mais c'est juste pour l'exemple. C'est comme si des fois aussi tu voulais retrouver un peu de faire juste de la musique, tu vois. Donc sous-entendu évidemment, bien sûr qu'on joue de la musique tout le temps, mais en tout cas sans les directions et sans le fait de d'assumer de faire danser des gens, là aussi de se dire bah en fait là j'ai juste envie de partir dans de la recherche, et effectivement du coup ça pourra pas forcément concorder avec des pas de danse, mais tant pis, pas grave, si j'ai un groupe ou un morceau où je me dis à ce moment là je veux juste faire écouter cette chanson parce que ça peut se faire aussi, bah. Donc ouais, là ce serait plutôt la casquette de musicien, musicienne, chercheuse qui prendrait le dessus.
Ceux qui ont un doute, vous êtes toujours sur l'écho du parquet, l'émission qui vous passe du reggae.
Il y a de quoi avoir un doute, ouais. C'était super, hein.
Mais Noémie, c'est la spécialiste des putschs. Alors moi aussi, j'ai fait un putsch, j'ai passé du reggae dans l'écho du parquet, bien qu'en fait, je ne suis pas très fan de reggae, mais quand même, celui-là était bien, puisque c'était Gwendal. Les bretons tradeux, roqueux, jazzeux de Gwendal.
Et reggaeux, apparemment.
Et reggaeux, oui, avec un reggae dont le nom est magique. C'est rien que pour prononcer le nom de ce reggae breton que j'ai proposé cette chronique. C'est le reggae gay de Guéret.
Voilà, cette chronique est finie. Merci Yann.
Non, pas du tout, elle va être très longue. Parce que ce morceau qui est sorti en 1979 introduit très bien au propos de la chronique à venir qui est un sujet ô combien épineux. N'est-ce pas ? Qui est celui de l'arrivée de la batterie dans le trad. Avant d'évoquer quand même cette arrivée de la batterie dans le trad au cours des années 70, évoquons rapidement l'invention de la batterie, qui est en fait un assemblage de diverses percussions qui à l'origine se jouaient séparément dans des orchestres classiques ou dans des marching bands, tels que la caisse claire, la grosse caisse ou la cymbale, pour citer les trois éléments qui ont été les premiers associés. Ce système est né au début du XXe siècle en Amérique du Nord et il est étroitement lié au développement du jazz. Depuis le premier assemblage à la Nouvelle-Orléans, le set des batteurs, c'est-à-dire l'ensemble des différentes percus qu'ils utilisent, qui jouaient dans les clubs, s'est enrichi et incorporé de nouveaux éléments au fur et à mesure du développement des différents styles de jazz avec le bebop dans les années 40-50, tout ça. Et ce sont encore les batteurs de jazz qui ont eu la plus grande idée de tous les temps de l'histoire de la percussion, celle qui incarne le moment du basculement définitif dans une civilisation avancée, Je veux bien entendu parler de la double grosse caisse, ou plus tard de la double pédale de grosse caisse qui a permis l'éclosion du thrash, du death metal, du black metal, tout ça. Merci les batteurs de jazz. Mais revenons au trad et à son éclosion revivaliste dans les années 1970. Au moment où tous ces jeunes gens chevelus redécouvrent la vielle à roue, la cornemuse et l'accordéon diatonique, la batterie est devenue un élément classique du jazz, mais aussi absolument fondamental dans le rock. Et ceux qui ont l'idée de mêler la musique populaire de leur époque, à savoir le rock, avec ces musiques traditionnelles pour lesquelles ils s'enthousiasment, en arrivent forcément à se poser la question de l'usage de la batterie en même temps que celle de l'électrification, les deux allant un peu de pair quand on vise le gros son. La batterie, elle apparaît en Angleterre dès 1967 chez les pionniers que sont Fairport Convention, puis Steel Eye Pan. Et en France, elle est présente aux côtés d'autres percus sur la scène de l'Olympia pour le légendaire et emblématique concert d'Alan Stivell à l'Olympia en 1972.
Voilà, Alan Stivell qui évoquait tout à l'heure Florian Wijbel.
Ouais, tout à fait, ouais. Et le fait est que je pense que lui et la musique bretonne, j'y reviendrai, ont joué un rôle important. Il me semble qu'elle est quasi absente chez Malicorne, en dehors de deux titres en 1970 sur l'album L'Extraordinaire Tour de France d'Abélard Rousseau. Et cette absence est peut-être justement un des éléments qui distingue Malicorne et son son de ses collègues au sein de cette mouvance folk-rock qui est nourrie au biberon du rock progressif. Et en fait, la plupart des groupes qu'on connaît qui ont mis de la batterie, c'est des groupes bretons. Peut-être parce que, je sais pas, peut-être l'utilisation de la batterie, elle est mieux adaptée à la musique bretonne qu'à la bourrée d'Auvergne, voilà, je sais pas, ou peut-être il y a moins de podorythmie en Bretagne, je ne sais pas, mais il me semble que c'est plutôt dans la musique bretonne que cette nouveauté est arrivée. Par contre, la batterie devient donc centrale à la fin des années 70 dans le son de l'autre groupe vedette de la mouvance, à savoir Trianne. Et c'est sur son quatrième album en 1976, La Découverte ou l'Ignorance, que le groupe commence à ponctuellement faire appel à la batterie via un musicien extérieur. En 1978, sur l'album Urba, le batteur Gérard Goron intègre le groupe, ce qui modifie considérablement leur son. Et c'est en 1981 que Trianne propose ce qui est pour moi son chef-d'œuvre absolu, avec l'album
Soleil Vert.
Le Soleil est Vert, dont tu vas nous donner le titre en breton.
Le titre de l'album ?
Oui, oui, oui.
Ah non.
Non, non. Alors moi je l'ai sous les yeux, mais c'est pas beaucoup plus facile. Anheol a Soglaz, Le Soleil est Vert, effectivement, dont je découvre avec tristesse, mais sans trop de surprise, que son long morceau titre est en fait un manifeste antinucléaire écrit à l'occasion de la construction de la centrale nucléaire de Plogoff en Bretagne. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes que le groupe symbole de l'électrification de la musique ait laissé à la postérité son meilleur album qu'un album antinucléaire. Mais bref, toute incohérence mise de côté, je vous propose d'écouter le titre qui ouvre cet album et qui s'intitule « Guerre, guerre, vente, vent ». On y retrouve un peu tout ce que j'ai essayé de dire dans cette chronique, puisqu'il s'ouvre avec un instrument très traditionnel à bourdon, tel que le dulcimer, je pense, c'est pas marqué sur la pochette, mais ça doit être quelque chose comme ça, avant que n'entrent des instruments électriques ainsi qu'une batterie. Et il me semble, alors c'est une question de goût, mais que le couple basse-batterie développe un groove assez funk-rock qui permet de contourner la menace que représente l'utilisation de ces instruments dans le trad, avec le risque que l'on connaît bien de devenir très lourdingue en mode baloche ou variétoche quand on a une basse-batterie dans un groupe de trad. Ce que Trianne a, à mon avis, fait allègrement par la suite, dans les terribles années 80. Mais là, en 1981, avec ce morceau, ça reste très proche du rock progressif des années 70. Je trouve ça vraiment très efficace et c'est une sorte de climax dans l'utilisation de la basse et de la batterie, pour moi, dans le trad. Voilà, je vous propose d'écouter Trianne, Guerre, guerre, vente, vent.
Après cette année de guerre, cette année de bâtiments.
Après cette année de guerre, cette année de bâtiments.
Je reviens de grande terre, je reviens à l'Orient.
Je reviens de grande terre, guerre, guerre, vent de vent.
J'ai passé des nuits entières debout au gaillardement.
J'ai passé des nuits entières debout au gaillardement.
Sous bon vent, souvent contraire, sous la brise.
Souvent, souvent, contraire, guerre, guerre, vent de vent.
Voyez mon
sac de misère, lourd de coups, vide d'argent.
Voyez mon sac de misère, lourd de coups, vide d'argent.
Allez dire au capitaine, j'ai obéi trop souvent.
Allez dire au capitaine, guerre, guerre, vent de vent.
Revoilà ton cher aimant.
Bonjour mamie qui m'est chère, revoilà ton cher aimant.
Je suis là de trop de guerre sans voir grandir mes enfants.
Je suis là de trop de guerre, 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 vent de vent.
J'ai reçu tes mille lettres par le rossignol chantant.
J'ai reçu tes mille lettres par le rossignol chantant.
Je t'écrivais moins peut-être, je t'envoyais des rubans.
Je t'écrivais moins peut-être.
Vent arrière, vent avant.
De l'Orient à grande terre, vent arrière, vent avant.
Les fleurs d'hiver étaient belles, elles annonçaient le printemps.
Les fleurs d'hiver étaient belles, guerre, guerre, vent de
Alors après Trianne et son amour pour l'électrification à l'éolien, avec guerre, guerre, vent, vent, voilà, on va s'approcher d'un autre groupe breton. Pour terminer, un groupe breton bien plus moderne, enfin bien plus contemporain, pardon, c'est pas une question de... Hein, dont l'album Les Orbes de Cristal est plein de ridées et autres plinées. C'est donc bien sûr une bourrée à deux temps qu'on a choisi de vous faire, écouter pour découvrir Nige. Nige, c'est un duo harpe-batterie, une forme qu'on retrouve dans le groupe aussi Caméléo, par exemple. Mais bon, en fait, malgré ça, ce sont quand même des exceptions, des scènes de bal. Parce
oui,
qu'on
c'est
peut
vrai
dire...
que c'est une formation qui est un peu originale, quoi.
Voilà, on peut dire que c'est pas un instrumentarium très courant, en tout cas en bal, et puis d'ailleurs sûrement pas que en bal, du reste. Harpe, batterie, c'est pas courant. Et dans le cas de Nige, Tristan Le Breton, le batteur donc, est aussi aux machines, et puis Maël Lopito, le harpiste, chante. Alors, dans cette bourrée, et puis comme vous le remarquerez, Nige évolue dans un univers résolument, et puis d'ailleurs pas que dans cette bourrée, résolument électro, rock planant, et puis eux-mêmes se disent, allez voir donc sur leur site internet, que dans un futur pas si lointain, des fest-noz seront probablement organisées sur la Lune, sur Mars ou sur Jupiter. Alors autant faire d'ores et déjà la musique qui ira bien, voilà, à l'ambiance de là-bas. La tradition bretonne à la sauce électro, c'est aussi une longue histoire, comme celle de la batterie. Et de... On va pas vous la faire tout de suite, on vous la racontera peut-être un jour, cette histoire. En attendant, voilà donc Nige pour terminer cette émission, qui vient mettre sa pierre à l'édifice de la grosse sauce électro bretonne, avec brio. Et sachez, en passant, qu'ils seront programmés au Festival du Son Continu en juillet prochain. On écoute Pandia.
À la prochaine.